Confiné chronique, jour 49. Après 7 semaines de confinement, la propagation du coronavirus a bien ralenti en France. Le nombre de morts est en baisse constante, 166 décès ces dernières 24 heures, même si beaucoup de questions subsistent pour l'après 11 mai. N'empêche, dans les hôpitaux, on souffle un peu. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec un infirmier ardéchois, Théo Perron, qui après ses études à l'IFSI d'Aubenas, a rejoint le service de réanimation de l'hôpital d'Annecy, où il travaille aujourd'hui. La Haute-Savoie, c'était une des premières zones touchées par le Covid-19 en France. Les premières semaines d'avril ont été éprouvantes pour les équipes. Depuis, ça va mieux, l'hôpital a réussi à bien s'organiser et se prépare pour la suite. J'ai demandé à Théo Perron si cette crise l'avait un peu choqué.
De par l'ampleur qu'elle a pris, oui. De par l'insuffisance respiratoire qu'elle a suscité, bien sûr. Après, c'est pas tellement la maladie en elle-même, parce qu'elle est, dans ses symptômes, assez proche de toute pneumopathie de réanimation assez grave, ou dans les grippes graves aussi, ça y ressemble un petit peu. La grosse différence, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'on devait donc appliquer des règles d'isolement draconiennes, et ce qui était choquant, c'est pas seulement pour les soignants, c'était aussi pour les patients. C'est-à-dire que dans un environnement de réanimation, vous savez à peine s'il fait jour ou nuit. Vous parlez à des gens, donc des personnels médicaux et paramédicaux qui sont habillés presque en cosmonaute. Vous n'avez pas de possibilité de communiquer avec la famille. Les visites sont interdites. C'est ça qui est choquant. Voilà. Ça a été vraiment très particulier au Covid.
Parce que certains ont dit que ça s'apparentait à de la médecine de guerre, quoi.
Du moment que tu n'es pas prêt à gérer cet afflux, bien évidemment que c'est de la médecine de guerre, parce que tu es obligé de faire des choix que tu n'as pas l'habitude de faire en temps normal.
Vous n'avez pas dû faire ce genre de choix de vie ou de mort. Un tel est trop vieux, il est condamné, et donc son lit ira un plus jeune, par exemple.
Oui, bien sûr que ça s'est opéré, peut-être dans des proportions moindres en fonction des zones qui étaient impactées. Sachant que quand un malade se présente avec donc le coronavirus en état donc d'hypoxie profonde qui nécessite une hospitalisation en réanimation, c'est une hospitalisation qui va être vraiment très très agressive, prolongée plusieurs semaines avec toutes les conséquences que ça induit. C'est-à-dire que quand on vous place en coma artificiel, c'est pas quelque chose dont on se relève facilement ensuite. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on avait voulu soulever entre guillemets tout le monde, ce n'était pas possible. On peut pas, à partir d'un certain âge et quand on a le corps trop fragile, le corps ne tolère pas cette agressivité, même malgré tous les moyens mis en œuvre. C'est pas qu'on dit non parce qu'on ne peut pas le faire, c'est des fois on dit non parce que ce n'est pas possible.
Du coup, pour toi, le confinement, il était essentiel pour justement éviter la surcharge des hôpitaux. Est-ce que là, tu penses que c'est une bonne idée de se déconfiner, en tout cas vu comme c'est censé partir le 11 mai ?
Si je vois juste à mon niveau, effectivement, ça a été drastique. Dès qu'on a commencé à confiner, on a vu le nombre de cas vraiment se stabiliser et puis petit à petit diminuer. Et là, on voit vraiment les effets du confinement. Après, c'est difficile de répondre à la question est-ce qu'on fait bien de déconfiner ou pas. Je pense qu'on peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, on va mécaniquement être obligé de le faire un jour.
T'as pas peur qu'il y ait une deuxième vague et que les hôpitaux se retrouvent avec des courbes ascendantes ?
Bah alors, il y aura une deuxième vague, ça c'est quasiment sûr. On peut pas l'éviter. Après, la question est de savoir si ça va reflamber. On est déjà en train de se préparer, en tout cas à l'hôpital, pour ça. Et on pense a priori qu'elle sera moins grosse que la première. Donc bon, voilà, on s'y attend.
Là, par exemple, vous avez combien de places en réa pour le Covid ?
Ça va tourner entre 40 et 50 lits qui vont pouvoir être recréés si jamais il y a besoin, sachant qu'on a vraiment 16 lits vraiment dédiés à ça en plus d'un autre service, et on est capable d'ouvrir une autre aile d'un service qui n'existe pas, entre guillemets, mais qui peut être ouvert en cas de nécessité.
À quoi tu t'attends pour les prochaines semaines ?
Je m'attends à ce que ce soit encore assez calme jusqu'au déconfinement. Va suivre ensuite la période où, mécaniquement, du fait d'un peu plus d'interaction, on va à nouveau avoir des cas.
C'est ce à quoi vous vous préparez à l'hôpital ?
Oui, c'est exactement. On a encore des services qui tournent au ralenti pour se préparer à l'afflux de patients si besoin.
C'est quoi d'ailleurs les services qui tournent au ralenti ?
Les services de chirurgie. Par exemple, nous, dans notre unité, le service de soins intensifs cardiologiques, par exemple, est uniquement dédié aux patients atteints du coronavirus. Donc voilà, l'activité de chirurgie cardiaque, elle tourne entre guillemets avec les urgences, quoi. Donc on opère que si c'est vraiment l'urgence vitale, et tout est reporté.
Et ça va pas finir par être problématique ?
Ça c'est un peu l'effet, ouais, effectivement, l'effet qui se coule du Covid, quoi. C'est tout ce qui n'est pas traité actuellement est dévié et c'est vraiment pas impossible qu'on découvre, quand tout sera ça fini, qu'on a eu une surmortalité, non liée au Covid, mais liée à l'effet qu'il a eu sur notre système de santé.
Est-ce que tu penses que toute cette crise, ça peut susciter un peu on va dire une revalorisation de vos métiers, des métiers de soignants, d'infirmiers qui aujourd'hui sont applaudis tous les jours à 20h, mais avec un hôpital qui a un peu payé aussi le coût de privatisation, de baisse de budget?
C'est ce qu'on espère aussi hein, dans la profession, c'est-à-dire que on s'aperçoit que quand on diminue le nombre de lits, on est moins capable d'absorber ce genre d'événement. Donc oui, on espère que les hôpitaux français vont sortir un petit peu plus fort de cette crise. Le service public, c'est quand même utile et quand on l'abandonne, on en paye un petit peu les conséquences.
C'était Théo Perron, infirmier ardéchois au service de réanimation d'Annecy, qui ne pourra malheureusement pas venir visiter sa famille au pays, puisque à partir du 11 mai, nous ne pourrons pas aller au-delà de 100 km autour de notre domicile. L'Ardèche, qui est en zone orange sur la carte publiée hier par le ministère de la Santé, l'un des critères, c'est la circulation du virus. Et en la matière, l'Ardèche est le département d'Auvergne-Rhône-Alpes où le taux est le plus élevé. Il est à plus de 10%. S'il ne baisse pas d'ici jeudi, nous resterons en zone orange, ce qui aura bien sûr une incidence sur les conditions du déconfinement à partir de lundi prochain. Du côté des infos locales, l'appel de 25 associations d'insertion, syndicats et partis politiques de Drôme-Ardèche, dont le MRAP, la Confédération Paysanne, le FSU, la CGT ou la France Insoumise, qui demandent au préfet de régulariser les migrants et notamment les mineurs non accompagnés présents sur notre territoire compte tenu de la situation exceptionnelle. À 18h sur nos ondes, une nouvelle édition de l'émission Confinée et engagée, solidaire d'abord. Et tout de suite, DJ Steph vous propose une spéciale dédiée à Idir, chanteur algérien, ambassadeur de la musique kabyle dans le monde. Il est décédé samedi soir à Paris à l'âge de 70 ans. De son vrai nom, Hamid Chériet Idir était fils de berger. Il aurait pu devenir géologue, mais c'est un passage à la radio particulièrement remarqué qui aura changé le cours de son destin. Poète engagé des temps modernes, il a mis à profit sa voix chaude et envoûtante pour prôner le mélange des cultures, alors ne bougez pas, c'est tout de suite sur Fréquence 7. Salut!